Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Je crois que tu as un problème de micro.
De micro.
Ah, là, c'est mieux.
Alors, attends, hop. Est-ce que c'est mieux ? Ah, on m'entend. Oui. Bonsoir, tout le monde, c'est La Causerie. Et Clara est à la technique. Bonsoir, Clara.
Bonsoir, mais t'as testé tout à l'heure le micro bleu.
Ah, non, c'est de celui-là.
Si, si.
Ah, peut-être. Oh, pardon. J'ai pas pris le bon micro. C'est peut-être pour ça que ça a pas bien marché. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et il y a aussi Jean-Yves qui est là ce soir.
Bonsoir, Fab.
Voilà. Et Fab qui est sur le micro orange et pas bleu. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux monter le bon micro. Ça marche mieux en général. Alors, ce soir, c'est une émission, bah, comme toutes les autres quand il n'y a pas d'invité. Parce que ce soir, on a des invités depuis 3 semaines, mais ce soir, on n'est que 3. Et voilà, sans invité. Et juste avant qu'on démarre, aujourd'hui, c'est la journée de la visibilité trans dans le monde entier. Cette journée, elle a pour vocation d'être une journée où on puisse mettre en avant les problématiques et surtout les violences que subissent les personnes trans partout dans le monde. Mais aussi, et c'est surtout ça qui est important, le fait que d'être trans, c'est pas grave. Voilà, et qu'en fait, c'est plutôt la société qui est grave, pas les gens trans. Voilà. Et donc l'idée, c'est pour nous de leur apporter évidemment notre soutien et de rappeler que, tout le monde dit toujours, oui, ces journées, blablabla, ça sert à rien. Si, en fait, ça servira tant que on n'aura pas résolu un problème aussi facile à résoudre que la transphobie, voilà, ou la haine envers les personnes trans. C'est-à-dire quand les gens arrêteront d'être haineux. Voilà, mais tant que c'est pas le cas, on aura malheureusement besoin de journées qui rappellent que qu'il y a encore des gens un peu, je sais pas comment dire, je veux pas être méchant, mais qui mériteraient d'être lavé le cerveau avec une brosse pour leur dire finalement, il faut arrêter de penser des conneries. Voilà. Donc et du coup, on va commencer cette émission en parlant du gouvernement, tiens.
Ouais, tiens, on va parler du gouvernement régulièrement. Hein, quand il s'agit de vous causer, de choisir un sujet à développer le dimanche soir, j'ai parfois quand même l'impression d'une répétition, dire de me répéter. Hein. Et c'est le cas ce soir. Hein. Alors forcément, quand des politicards répètent perpétuellement les mêmes propos, prennent régulièrement les mêmes cibles, on est bien obligé de répéter nos arguments aussi, de répéter quelques principes de base, du moins en tout cas de ma base.
Disons qu'ils se répètent beaucoup.
Oui, c'est ça en fait. C'est... Donc forcément, on répétita partout. Quoi. Alors, me répéter, non pas pour faire prendre conscience à nos gouvernants de leur fausse route, vraiment pas du tout, mais bien pour diffuser d'autres manières de penser, d'autres angles de lecture, d'autres arguments, d'autres discours que celui qui occupe la grande majorité des médias. Je dis bien la grande majorité, ça ne veut pas dire tous les médias, nuance toujours. Alors je vous dis tout ça, c'est par rapport justement aux dernières déclarations, ou en tout cas aux dernières idées, et déclarations aussi tu me diras, de Gabriel Attal, le premier sinistre français. Alors vous n'êtes sûrement pas sans savoir que le gouvernement avait fantasmé une croissance qui aurait réduit le déficit français. Sauf que le réel n'est pas leur fantasme, et il leur faut donc, une fois encore, chercher de la thune. Oh, 12 milliards, je veux dire, c'est pas grand-chose. Alors, on peut déjà s'interroger, je me suis dit, au choix, soit sur l'incompétence de Le Maire, qui est peut-être meilleur auteur que financier.
Mais ça fait quand même 7 ans ou 8 ans qu'il est là. Hein.
Ouais, mais il a écrit beaucoup de livres aussi, donc je me dis qu'il est peut-être meilleur auteur.
Non, mais ce que j'aime bien quand il dit la politique qui a été menée n'était pas la bonne, mais c'était la sienne. Donc ça, ça devient intéressant, cette espèce d'immersion.
Bah,
dans
c'est surtout, tu te dis, mais il leur faut combien de mandats en fait? Un mandat à vie peut-être, ça, ouais, pour être sûr. Enfin bon. Oui, pardon. Donc il est peut-être meilleur auteur que financier, hein, d'avoir surestimé une croissance. Et je me disais, bah, pour des pros comme eux qui aiment tellement à nous prendre pour des petits enfants qui comprennent rien à ce jeu de grands, bah, c'est peut-être quand même un petit peu ennuyeux, n'est-ce pas? Ou on peut peut-être aussi s'interroger sur leur ingéniosité. En surestimant consciemment une croissance dont dépendra un remboursement de dette, pour ensuite pouvoir continuer la mise à mort du système social. Alors, mort du système social qui a été entamé bien avant Macron. Hein. Ah, moi, Macron et son monde, on pouvait prendre tous ceux qu'il y avait avant, ça refait à peu près la même. Hein.
On garde son monde.
C'est leur monde est à peu près le même.
Hein. Voilà, c'est ça.
Donc, nous jouons dans une continuité de la pensée libérale économique, évidemment. Hein. Mais c'est un système social auquel ils seraient évidemment très, très, mais très, 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 très attachés. Hein. Pensez donc. Enfin, ces gens-là n'ont pas d'idée comme ça derrière la tête. Bref, encore une fois, hein, une des pistes annoncées par Attal et sa clique est d'aller taper sur les chômeurs et les chômeuses. Réduire la durée d'indemnisation, augmenter la durée du temps de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, voilà certaines pistes qu'il a avancées. Et quand même, en disant ça, il ne faut pas oublier qu'une réforme du chômage a déjà été faite il y a un an.
Hein, ouais, et la précédente 2 ans avant.
C'est ça. Donc vraiment, t'as l'impression de dire, mais ne fermez jamais les chantiers. Laissez-les ouverts constamment et continuez de taper dans les chômeurs et les chômeuses.
Ouais, mais ce que tu dis, ça amène quand même une vraie question. C'est que une politique de transformation du marché du travail. Alors, je vais pas jouer le mec qui lit beaucoup de sociaux ou trucs comme ça, mais normalement, on estime qu'il faut 5 ans avant de voir si ça a un effet ou pas.
C'est un effet, ouais.
C'est-à-dire que vous mettez en place quelque chose et vous faites le bilan 5 ans après, bah, tout simplement parce que entre le moment où vous décrétez une loi, le moment où le décret est publié, le moment où c'est appliqué dans les entreprises, le moment où c'est appliqué à Pôle Emploi France Travail maintenant. Etc., etc., on sait qu'il y a une latence qui est normale, hein, parce que les choses se font pas en claquant des doigts. Donc, beaucoup d'économistes, beaucoup de sociologues disent qu'il faut 5 ans à peu près au moins pour estimer. Or là, on a quand même un gouvernement qui vient de nous pondre en 4 ans 3 réformes du chômage. Il y a un moment, il faudrait peut-être leur dire on peut attendre de voir si la précédente elle marche quand même, parce que voilà. Bon, on sait que ça marchera pas, hein, mais je veux dire, au moins laisser ce temps-là, quoi.
Non, mais ça démontre bien, je pense, quand même l'approche idéologique.
Ah, clairement,
ça,
ouais.
Clairement. Sans être, on n'est pas dans du complot, hein, c'est juste c'est de l'organisation.
Leur idéologie, c'est de montrer du doigt les chômeurs.
C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est quand même à se demander, hein, jusqu'où les gouvernants iront pour récupérer toujours plus de thunes. Ah non, pardon. Non. Pour bien permettre à chacun et à chacune de nous émanciper par le travail. Parce que le travail rend libre, on le sait bien. Ça a été dit dernièrement là, hein, par Vautrin.
Oui, c'est Vautrin qui a quand même repris une doctrine quasi-nazie.
Oui, oui.
Sans même s'en rendre compte. Non, mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une espèce de, aujourd'hui, de blougi-boulga politique qui fait que tout passe. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient relevé de dire cette phrase quand même, elle craint de sévère, parce que c'est quand même péténiste, à minima. Et voilà, enfin c'est...
Ouais, et en même temps, ce positionnement sur le travail, on a déjà eu...
C'est un positionnement qui est malheureusement trop largement...
12 ans de la causerie, c'est le travail comme valeur émancipatrice... Ça va de la gauche ouvriériste qui a la fierté des travailleurs, tout ça, soit fier d'être exploité, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est un truc quand même qui est vraiment partagé quand même par beaucoup de monde sur l'échiquier politique, on va dire assez standard français, quoi. Époque française, tu me diras. Enfin bref. Mince, je ne sais plus où j'en étais.
À Vautrin.
Ouais, c'est ça. Et on peut se dire, on peut se demander, en tout cas, comme si réduire, en tout cas, les moyens de subsistance des individus allait créer des emplois par millions. Hein, quand on sait qu'il y a moins de 350 000 emplois vacants en France, pour plus de 5 millions de demandeurs et demandeuses d'emploi, on pourrait quand même presque rire d'une telle bêtise de gouvernant. Sauf que, encore une fois, ça se fait sur la gueule et sur le dos des plus précaires. Donc c'est juste quand même, tu dis, Mais même, enfin, mathématiquement, c'est, il y a quelque chose, physiquement, ça ne va pas, en fait, ça ne rentre pas.
Ouais, alors, Attal a essayé de se sortir de ce truc-là en disant, oui, mais c'est 450 000 emplois qui sont publiés maintenant, mais il y en a de nouveau 450 000 qui sont publiés régulièrement. Oui. Alors, j'ai trouvé ça bien, il y a deux syndicats de France Travail, hein, donc la CGT et la CFDT, qui se sont unis, pour une fois, et pour faire quelque chose d'assez intéressant, ils ont fait un pointage. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les postes qui étaient, puis ils ont regardé depuis combien de temps ils étaient publiés. Et ils ont démontré qu'en fait, non, il y en a, ça fait un an et demi qu'ils sont publiés. Et si on trouve pas, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas les personnes qualifiées qui vont en face du mouton à cinq pattes que cherche l'employeur qui a mis ce poste-là, en fait. Et du coup, bah, ils disent, bah non, en fait, c'est pas vrai qu'il y a 450 000 postes publiés tous les mois. Ce qui va laisser entendre le Premier ministre. C'est ce qui voudrait dire que bon, bah, les 5 millions de chômeurs, en 10 mois, c'est réglé.
Oui, c'est ça.
Et en fait, on voit que même là, c'est, plus c'est gros, plus ça passe. Et surtout, on sait bien tous ceux qui ont eu à travailler, ce qui n'est pas le cas de M. Attal, donc on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas. Bah en fait, que bah quand on postule à un emploi, ça prend des fois 3-4 mois avant qu'on soit pris, parce que bah vous faites un premier entretien, deuxième entretien, vous passez le machin, vous allez remplir des papiers, machin, et c'est pas immédiat. C'est-à-dire, c'est pas bonjour, j'aimerais travailler aujourd'hui, et une heure après, vous travaillez. En fait, c'est, ils ont une espèce de vision du monde du travail, mais qui est complètement à côté de ce que.
Ah oui, mais c'est en ça où tu te dis qu'effectivement, on est purement dans l'idéologie.
Ah mais oui.
Parce que je veux dire, ils sont même pas. Enfin, je veux dire,
mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent.
Oui, c'est ça.
Il parle de choses qu'ils ne connaissent vraiment pas. Je fais une dernière parenthèse, pardon, mais c'est j'ai vu Gabriel Attal sur TF1, enfin des extraits, je peux regarder TF1, mais j'ai vu l'extrait où il dit les employeurs ouvrent facilement les postes. Bah, déjà, pour balancer un truc comme ça, faut déjà rien connaître au monde du travail.
Bah, sauf si tu as des amis entrepreneurs et tu dis oui.
Ouais, mais sauf qu'au fait, même le MEDEF lui-même, même le MEDEF, a fait dans ses universités d'été un atelier sur comment recruter plus largement. C'est-à-dire que même eux se sont rendus compte que à chaque fois, ils cherchaient le mouton à cinq pattes, qui savait parler allemand, parler anglais, avoir 10 ans d'expérience en sortant de l'école, et s'ils pouvaient en plus faire de la programmation informatique, ce serait génial. Voilà. Et en fait, eux-mêmes se sont dit, on devient trop exigeant, ça marche pas. Donc si le patronat, qui est quand même le truc le plus pourri qui soit et qui a quand même une vision très pourrie du monde du travail, est capable lui-même de dire ah, peut-être qu'on merde un peu, avoir un premier ministre qui arrive et qui joue facilement les postes, mais à un moment donné, on voit vraiment il ne sait pas de quoi il parle, mais bah, vraiment
non.
Pas.
Bah non.
Clairement quoi.
Logique. Lui, son métier, c'est être politicien.
Oui, c'est ça, son métier, c'est ça. Ouais.
Alors évidemment, hein, une fois encore, bizarrement, bah, les gouvernants ne voient pas d'autre piste pour récupérer de la thune. Pourtant, de l'argent, on peut en trouver quand même dans plein d'endroits différents, hein, sans précariser encore plus les précaires et sans appauvrir ceux qui arrivent à peu près à vivre, en fait. Alors, je me suis dit, tiens, on va donner quelques exemples, n'est-ce pas ?
Si par hasard, ils nous écoutent.
Ah non, comme dit, hein, j'ai aucun espoir de faire changer les politiciens, du tout. C'est pas ça qui changera les choses. Alors, par exemple, le CICE, hein, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui existait jusqu'en 2018, et autres allègements de cotisations sociales du patronat, et non pas charges, n'est-ce pas ? Ce sont des cotisations. Soit des milliards, des dizaines de milliards depuis 2013 pour quelques centaines de milliers d'emplois. Ça fait cher l'emploi et c'est là quand même qu'on se dit ça c'est de l'argent jeté par les fenêtres.
Mais hein, surtout, c'est-à-dire qu'on pourrait payer les gens avec ces milliards pour faire autre chose. Hein.
Enfin, oui. On peut aussi citer la fin de l'ISF, impôt sur la fortune, et son remplaçant, en tout cas son remplacement par l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui fait perdre quelques 4 milliards par an aux finances de l'État. Mais là, encore une fois, c'est pas grave, c'est les riches qu'on allège. Alors, faudra pas déconner.
C'est pour que ça ruisselle.
C'est ça.
On attend que ça déborde, ça déborde toujours pas.
Alors, j'oublie évidemment pas, hein, non plus, les 80 milliards hein, qui vont vers les paradis fiscaux. Ne les oublions pas. 80 milliards et on cherche 12 milliards. C'est marrant. Il y a un truc qui me fait dire que 12, c'est plus petit que 80.
Peut-être les mathématiques ?
Je m'avance peut-être un peu trop. Je suis pas sûr. Faudrait que je demande à un spécialiste. Ou encore aussi, hein, bah, les bénéfices du CAC 40, hein, j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, qui sont toujours plus élevés, hein, d'année en année. Mais c'est la croissance, hein, ce qu'ils nous disent. Donc c'est super. Il faut juste être content. Vous êtes pas content ?
Mais j'ai pas d'action. Donc...
Oui, mais il faut être, même si c'est pas pour toi, il faut être content. Parce que plus les riches sont riches, et plus peut-être t'auras la chance de ramasser une ou deux petites miettes qui vont jeter par-dessus bord. Bon, bah voilà. Hein. Donc soyez heureux. Alors, ce ne sont là hein, que quelques exemples. Hein. Je pourrais en donner encore d'autres.
Mais il y en a un qui d'ailleurs, je dis pas, personne n'y pense, mais les aides directes aux entreprises et indirectes, c'est 200 milliards par an. Ouais. Voilà, juste qu'on se rende compte de ce chiffre-là, c'est 200 milliards par an. Donc, à mon humble avis, je pense qu'on doit pouvoir dire il y a des aides qui servent à rien, on peut arrêter de les verser, on peut les remettre ailleurs. Mais non, même ça, on ne l'interroge pas.
Mais c'est... là aussi, 200 milliards, ça me semble plus élevé que 12 milliards.
Largement, oui, je te confirme.
Ouais, je demande confirmation, je suis jamais...
D'après les maths.
Hein, t'es fort en
ouais,
maths.
Ouais, en maths. C'est là où je me dis, j'ai peut-être ma place au gouvernement. Hein.
Et en même temps, il est venu avec son boulier. Hein. Donc,
Évidemment, je suis bouliste. Pardon. Alors, dans tous les cas, hein, ça démontre bien qu'il y a différentes manières en fait de trouver de l'argent et le faire en appauvrissant encore plus les plus précaires. Bah, c'est un choix purement politique, purement idéologique. Alors, et moi, les positions que je peux donner, les propositions que je peux avoir, c'est aussi idéologique et politique.
Bah oui.
Mais je l'assume en fait.
Et oh non.
Ok.
Oui, tu parles de pragmatisme.
C'est ça, parce que c'est ce que je me disais. C'est, je me suis dit, les entre guillemets, nous n'avons pas le choix. Bah en fait c'est que du pur mensonge en fait, et il est important je pense de contrer ce discours faussement fataliste, parce que finalement vraiment on a l'impression que oh là là ça nous fend le cœur vraiment de tuer la sécu, ça nous fend le cœur de tuer l'assurance chômage, ça nous... Bah en fait il y a beaucoup de choses quand même qui leur fend le cœur. Il faudrait peut-être qu'ils arrêtent en fait, parce que ça pourrait vraiment aller mieux.
Mais
et donc justement, enfin c'est juste c'est aussi en fait c'est aussi à nous de penser en fait ces sujets-là, quoi, et arrêter juste d'entendre ça et se dire bon bah ouais bah non, en fait il y a plein d'autres choses en fait, et des chiffres on peut tous en connaître, et des choses comme ça, ça demande, enfin j'ai pas un bac plus 10 quoi pour comprendre ça. Alors vas-y, tu voulais dire un truc.
Oui, je voulais rappeler quand même aux auditrices et auditeurs, parce que beaucoup de gens le savent pas ou s'en rappellent pas, c'est que l'assurance chômage comme la sécurité sociale, avant l'État ne le gérait pas. C'est-à-dire qu'en fait c'était géré soit au départ par les ouvriers et les ouvrières, les travailleurs et travailleuses, puis après par un truc bipartite avec le patronat, et depuis quelques années l'État est venu s'immiscer dans l'assurance chômage et dans la sécurité sociale. Mais le but c'était pas de gérer mieux, parce que d'abord ça se saurait si l'État gérait mieux, parce qu'il suffit de regarder par exemple la caisse alsacienne de sécurité sociale qui est toujours gérée par les salariés et qui est bénéficiaire et largement,
et avec des remboursements,
avec des remboursements à 90%, parce que justement elle est gérée pour les besoins et pas gérée par l'État, parce que l'État, ce qu'il a voulu faire, c'est venir taper dans la caisse, lui, venir récupérer du pognon. Et le problème, c'est que ce pognon, je vous le rappelle, amis auditrices, auditeurs, c'est le vôtre. C'est-à-dire que l'État est en train de vous voler, ni plus ni moins. C'est-à-dire que quand on veut taper dans l'Agirc-Arrco, quand on veut taper dans la sécurité sociale, quand on tape dans l'assurance chômage, en fait, on tape dans le salaire socialisé. Donc, en fait, on est en train de nous voler. Ça porte un nom. Hein.
C'est ça. Oui, mais... Il porte bien le costume.
Ouais, c'est ça.
C'est important de bien porter le costume. Alors, il y a un dernier point que je souhaite aborder avant de lâcher le micro. Bah, c'est parce que j'ai entendu dernièrement un journaliste dire, pour taquiner des gens de gauche, « Vive les riches, parce que sans les riches, qui taxeriez-vous » Alors déjà, je me suis dit, bah, c'est qui déjà les riches, en fait? Parce que dès qu'on parle de taxer, en fait, tout le monde se fait dessus. Mais en fait, là aussi, c'est l'État qui nous fait croire qu'il n'aura pas le choix que de taxer, on va dire... entre guillemets les classes moyennes, etc. Mais en fait, entre les classes moyennes et les très très riches, je pense qu'il y a un delta, en fait. Hein. Vraiment, je pense que...
De quelques milliards.
Ouais, tu vois, c'est vraiment... Je pense qu'on peut être dans des nuances, tout ça. Mais c'est marrant, là, ils n'y arrivent pas à être dans la nuance. C'est vraiment fou. Hein. Et pareil, je me demandais, mais quand on parle de riches, ben, ça vient d'où leur richesse, en fait? Et c'est quoi, en fait, la richesse? Parce que la richesse, il y en a plusieurs, en fait. Alors, déjà, je me suis posé la question, c'est peut-être, est-ce qu'on arrivera à tomber d'accord sur un niveau de vie qui nous classerait dans la catégorie riche? Alors, je sais pas, j'avance des chiffres, hein, j'en suis loin, moi, personnellement, mais c'est 3000 euros par mois, 4000 euros par mois, 5000 euros par mois, plus... On s'arrête où, en fait? Est-ce que 10 000 euros par mois, on n'est toujours pas riche?
Alors, moi j'ai le chiffre en tête, donc je peux te le donner. Pour une personne célibataire, l'INSEE fixe ça à 3 800 euros net par mois. Pour une raison simple, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous êtes dans les 10% les plus riches de France.
Ouais.
Voilà. Non mais c'est...
On voit
un peu la catégorisation, elle est là. Hein. Voilà, 3 800 euros net par mois pour une personne seule. Voilà.
C'est bien.
Sachant qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus. Hein.
Oui. Non, mais oui
donc on peut aller taxer ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup plus. Hein.
Oui, aussi, oui. Et qu'en est-il, en fait, justement, de la fortune qui n'est pas sous forme directe d'argent, qu'on peut dénommer le patrimoine, patrimoine immobilier, ce genre de choses-là, en fait. Alors, un Bernard Arnault, par exemple, qui pèse quelques 235 milliards, ou un Axel Dumas, qui pèse 133 milliards.
Tout ça avec des selles de cheval, quand même.
Oui, c'est vrai. Un Gérard Mudiez, Auchan, etc., etc. Si Auchan, oui, le Roi Merlin, etc.
Mais celle de cheval, c'est parce que celui d'avant, c'est Hermès.
Oui, Axel Dumas, c'est Hermès. C'est pour, un Gérard Mudiez qui pèse 51 milliards d'euros. Un Pierre Castel qui pèse 12 milliards d'euros. Vous pensez réellement... Non mais là, vraiment, et là, enfin, je prends un ton un peu marrant, mais en fait, c'est, vous pensez réellement qu'ils se sont faits tout seuls. Ils ont emmagasiné 235 milliards tout seul, mais juste par la force de leur travail.
Ce sont des entrepreneurs.
C'est ça.
Et tu peux pas imaginer à quel point c'est dur.
C'est dur, tu m'étonnes.
Non, je déconne. Mais c'est bon, bien sûr qu'ils ne sont pas faits tout seuls.
Et je me suis dit, même si on décentre notre regard, parce que ça, je pense, que c'est aussi important. Un Elon Musk qui pèse 200 milliards. Ou un Bezos, Jeff Bezos, de son prénom, qui pèse 190 milliards. Ou Mukesh Ambani, et c'est 90 milliards. C'était aussi pour montrer que des très riches, c'est, on en a un peu partout, même pour... si c'est un Indien.
Ouais, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait une fête pour son fils.
Ah,
oui, il a payé Rihanna pour 45 minutes. Là, voilà, ouais,
5 millions pour un
pour
concert.
Pour ceux qui ont suivi ça, et vous allez voir qui c'est du coup.
Ouais, c'est vrai que tu dis 90 millions, effectivement, il pourrait claquer 5 millions pour un concert.
Ouais, 90 milliards, tu t'es même...
90 milliards, pardon. Dépassé par les chiffres. Et quel que soit leur nom, en fait, quelle que soit leur nationalité, ne pensez-vous pas que leur richesse est le fruit des salariés qui pensent, qui fabriquent, qui vendent pour eux, faisant donc fortement fructifier leur chiffre d'affaires, d'où ils vont tirer leur salaire, etc., etc. Si personne ne fabrique, ne travaille pour ces personnes-là, quelle richesse posséderait-ils ? C'est vrai, vraiment, je peux prendre un ton comme ça, mais c'est des vraies questions auxquelles j'aimerais vraiment que chacun, chacune, on se dise bah, c'est vrai ça, tiens.
Mais non, mais c'est vrai.
Comment
c'est
ils ont leur richesse, en fait ? Parce que je pense
c'est
que
l'exploitation,
des fois,
c'est la base de l'exploitation.
Parce que des fois, je crois qu'on cherche même plus à se poser des questions aussi simples, en fait. Mais c'est quoi la richesse et d'où elle vient, en fait ? Alors, même si hein, certains des nommés sont des petits héritiers, quelle richesse !
Ce qui est aussi un problème.
Mais oui !
C'est-à-dire qu'on n'a pas taxé l'héritage.
Quelle richesse, en fait, leurs parents leur auraient-ils légué ? Si eux-mêmes, leurs parents donc, n'avaient pas récolté la richesse créée par des salariés exploités. Il y a un truc comme ça. Et je me dis que donc ceux qui fabriquent en fait hein, le gâteau, on peut se dire que tout l'argent qu'ils créent, c'est un gros gâteau, ben, en fait, il est fabriqué par les salariés en fait. Et si on devait, et on devrait, nous, toujours une part plus petite du gâteau. Hein, on devrait
voir les miettes.
C'était la suite. On devrait éternellement se contenter des miettes. Hein, dire être en dessous, dire oh là là, attention, ils nous jetaient des miettes. Attendons que ça nous arrive dans la bouche. Alors oui, hein, je fais clairement aucune confiance aux politiciens pour résoudre nos problèmes, pour construire un monde fait de solidarité, d'équité, enfin genre un truc complètement fou quoi. Par contre, je pense que le changement viendra vraiment d'en bas. En fait, il viendra de nous en fait. Quand on prendra conscience de nos positions sociales, de nos positions économiques, etc. Mais encore, là, il faut qu'on soit nombreuses et nombreux, en fait, à cesser de croire, justement, les affabulations des politiciens, en fait, les mensonges, les déclarations outrancières qui, en fait, riment à rien. Et en fait, et que aussi, on pense nous-mêmes les choses, en fait, sans avoir un maître à penser, sans attendre qu'un Jean-Luc Mélenchon nous pond un tweet ou je sais pas quelle merde. On s'en fout, en fait. Je veux dire, là, quand on parle de chiffres, quand on parle de position sociale, de patron, de salarié, d'exploité, etc., en fait, on est toutes et tous capables, en fait, de comprendre ces positions-là, parce que je pense que, dans nos auditeurs, auditrices, je pense qu'on occupe tous une de ces positions-là. Alors bon, si vous êtes milliardaire, dites-le nous.
Et surtout, envoyez votre chèque au 24 rue Sergent Blandan. Pardon, non, excusez-moi, ça m'a échappé.
Et justement, bah, tout ça pour peut-être un jour oser espérer que nous changeons la donne. Mais je crois que d'ici là, il va vraiment falloir qu'on s'arme et que, bah, qu'on refasse appel aussi à nos esprits critiques, sans tomber là non plus dans des trucs un peu trop simplistes. Alors peut-être que j'ai été trop simpliste, hein, vous me direz, mais je trouve que oui, en fait, entre les discours nous à Macron et son monde, et de l'autre côté t'as, il faut taxer les chômeurs, tu dis mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a aucune qui est une vraie solution. C'est-à-dire quand on se positionne c'est de la faute des chômeurs, c'est fausser le problème.
Le vrai problème, c'est pas du tout les chômeurs et les chômeuses, parce qu'encore une fois, cet argent, il nous appartient. À côté de ça, contre Macron et son monde, ça ne dit rien. Si ce n'est un rejet du monde actuel. Oui, certes, mais pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on veut construire après ? Ça serait un sujet d'une autre émission, tu me diras. Mais
c'est peut-être là qu'est justement la part intéressante, c'est commencer à réfléchir collectivement à ce qu'on aimerait.
Ben oui.
Et plutôt que juste d'être contre.
C'est ça.
Et on a à penser le qu'est-ce qu'on aimerait.
C'est ça. Et en même temps, à penser toutes ces notions position sociale, économique, etc.
Parce que ce que tu décrivais de Attal et des ministres, c'est une vision réellement, eux, ils savent ce qu'ils veulent après.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils sont, très clairs hein, sur leur vision. C'est une protection de la classe dominante, des riches. C'est une protection de la propriété privée. Donc, eux, ils ont une vraie vision de comment ils voient le monde après. Et moi, j'ai même tendance à penser qu'ils le voient même d'autant plus sombre, ce monde d'après, qu'ils sont en train de poser les jalons pour s'assurer d'une protection maximale des plus riches. Et je suis pas du tout dans le complot dans ce quand je dis ça. On sait qu'historiquement, l'État a toujours été du côté des plus riches. Il suffit de voir la commune de Paris qui est réprimée dans le sang avec un Adolphe Thiers qui dit tant qu'il n'y en a pas jusqu'à la cheville de la botte, continuez à en fusiller. Bon, on voit bien que quand il y a une vraie volonté en fait de l'État d'être une protection des plus riches. Et le problème, c'est aussi ça, c'est comment on pense nous collectivement pour se passer de l'État.
C'est une vraie
interrogation.
Oui, parce que
c'est-à-dire comment on peut penser en dehors du schéma de la République, en dehors du schéma de l'État, en dehors du schéma de la frontière, de la nation. Comment on peut penser en fait autrement, différemment et oser tenter d'imaginer autre chose.
C'est ça.
Et c'est ça qui devient urgent en fait.
Et sans être, je le précise encore une fois, des amoureux du communisme autoritaire. Je lui chie à la gueule autant qu'à tous les autres régimes politiques.
Je pensais plus à un truc de liberté moi. Derrière.
Oui oui, non, mais je préfère le dire parce que quand même on sait que les cocos ils ont quand même une bonne tendance dans nos milieux même rebelles etc. Hein, on arrive toujours à voir des gens avec nostalgiques du marteau et de la faucille etc. Ouais ben en fait non parce que vous êtes adorateur d'un pouvoir autoritaire comme les autres et en fait nous on ose naïvement on ose penser un monde qui se défera de toute autorité sans dieu sans maître et sans patrie et sans nation et sans
frontières sans tout ça.
Ouais ce serait magnifique non
enfin sans bref patron du coup
ouais ça aussi enfin bref allez on passe à la zic
allez
Selfishness takes over. No one ever warns you about their intentions. No one ever cares about what you might feel. I guess this is what's like to be the
jusqu'au bout. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22 à 23h. Et là on vient de s'écouter un titre de Regular Girl et il se nomme Third Wheel. Et c'est une voix peut-être que les anciens auditeurs ont pu les auditeurs auditrices ont pu connaître. Voilà, je dis ça comme ça.
Sur la radio, tu
vois. Sur la radio. Ouais.
Moi, en tout cas, ce titre, il m'a emmené sur les plaines du Larzac sous la pluie. C'est très bien.
Mais en tout cas, c'est le premier extrait ou le deuxième extrait d'un album qui devrait pas tarder à arriver. Et la chanteuse est lyonnaise.
Et voilà. J'ai vraiment adoré. Je trouve ça vraiment très très bon.
Et ben tant mieux. Et ça nous change un petit peu. Et bien, c'est Fab, tu prends la suite.
Ouais, je prends la suite.
C'est ça. It's a seduction.
Voilà, c'est ça. Yeah. Bah, j'avais envie de vous parler. Ouais.
Oui. Clara est un petit peu étonnée, mais oui, attends, on travaille nos transitions.
Vous travaillez vos blagues.
Bah ouais, on bosse.
Transition.
Hein. Comment on va transitionner.
It's a seduction. Voilà. Tu vois.
Bah, voilà. Je voulais vous parler d'une période. C'est chaque année. Moi, j'ai deux périodes qui me touchent particulièrement à titre personnel. Donc, c'est le SIDA Action et le 1er décembre, hein, parce que c'est deux moments où, un peu moins que d'habitude, l'épidémie de SIDA n'est plus oubliée et où, parfois, on rend un peu hommage aux disparus de cette maladie. Alors oui, je sais, je suis un ringard qui ose encore penser aux morts, passés et présents, et qui n'est pas dans la négation au point de penser que tout est réglé. Ben, ringard, je vais le rester tant que ce virus continuera à se balader, tout simplement. Quand j'aurai fini de bailler tous les deux, on pourra continuer.
Okay. Moi, je n'ai pas baillé.
Et puis, cette année, y a une chaîne publique qui a eu quand même une drôle d'idée. C'était programmé en première partie de soirée la série It's a Sin, d'où le titre It's a Sin d'action. Voilà. Série au départ produite par HBO Max et la BBC. Et je dois dire que pour une fois, bah, j'ai trouvé ce choix sacrément audacieux. Bon, alors je vous rassure, elle n'a pas fait beaucoup d'audience parce que bon, parler des années noires de l'épidémie de SIDA, on préfère souvent regarder ailleurs. Hein. C'est un peu le truc qu'on se dit non, je vais pas regarder. Et puis nous nous mentons pas, hein, la vague réactionnaire du moment n'aide pas à ce qu'un programme qui met en avant le milieu gay des années 80-90 au Royaume-Uni fasse un score de folie. Voilà.
Pas exagéré.
Et pourtant, ce serait quand même plus que mérité, parce que c'est une excellente série. Alors, la série, elle a été créée par Russell T. Davis. Alors oui, pour ceux que ce nom dit quelque chose, c'est le papa de Queer as Folk UK. C'est lui qui avait créé la série Queer as Folk au Royaume-Uni. Et c'est aussi le sauveteur de Doctor Who.
Okay.
Voilà, en personne, c'est celui qui a relancé Doctor Who. Donc, pour moi, c'est à peu près Dieu. Voilà. Oh, je plaisante.
Il
n'y a pas de Dieu. Mais j'adore Celte Davis quand même. Bon, alors pourquoi il a eu envie de faire cette série et surtout pourquoi il y a mis sa crédibilité? Parce que du coup, bah, l'avantage qu'il a maintenant, c'est que quand il propose quelque chose, on l'écoute. C'est plutôt cool. Et ben, tout simplement parce qu'il estime qu'un pan de l'histoire LGBT plus et surtout gay, finalement, bah, risque d'être oublié. Et il s'est dit, bah, il faut quand même qu'on fasse une série pour rappeler ce qui s'est passé, parce que bah, il se rendait compte que bah, ça disparaissait. Et lui, il est de cette époque-là. Donc c'est son adolescence.
Okay.
Donc forcément, il avait entre 15 et 20 ans au moment des années noires du SIDA. Donc du coup, c'est une période, elle est lui-même homosexuel, d'ailleurs il ne l'a jamais caché, et c'est une période qu'il a beaucoup connue, il a perdu plein d'amis. Donc du coup, il trouve un peu bizarre qu'aujourd'hui, bah, plus personne n'en parle, quoi, ou très peu de monde. Et il avait aussi envie dans cette série de rappeler que c'est pas la liberté qui a tué, parce que ça c'est un peu le truc des réacs de dire, hein, le SIDA c'est parce qu'il y a la liberté sexuelle, machin. Mais en fait c'est bien la honte, hein, qu'une société a mis sur le dos des non-hétérosexuels et contre toute forme d'amour hors norme qui a fait des morts, en réalité. Longtemps, la série, elle s'est d'ailleurs appelée Boys, voilà, parce que c'était l'idée des garçons, avant qu'elle n'adopte un titre définitif, et c'est It's a Sin. Alors pour ceux qui connaissent, c'est un titre, un hymne même, des Pet Shop Boys, qui date des années 80, et qui dénonce les carcans religieux, moraux et patriarcaux d'une société qui déteste la différence. Donc ça tombait plutôt bien en termes de titre, et ça va même devenir le générique de la série. Voilà, donc la boucle est bouclée, comme il a dit lui-même dans une interview. En 5 épisodes de 45 minutes, hein, donc c'est une série qui se regarde assez facilement et assez rapidement, la série suit donc la vie de plusieurs personnes. On a d'abord Richie, un jeune homme qui rêve d'être comédien et qui est issu d'une famille travailliste. Alors je vous rappelle, les travaillistes sont censés être de gauche, mais peu ouverte d'esprit, pour pas dire plutôt fermée. Et on a assez.
Non, mais ça me rappelle toutes ces familles de gauche qui n'ont rien contre les homosexuels, sauf quand c'est leur enfant. Voilà. C'est marrant.
C'est un peu
pas,
ça.
D'ailleurs, mais...
Donc, c'est Holly Alexander hein, qui va d'ailleurs représenter le Royaume-Uni à l'Eurovision cette année. Vous vous en foutez, mais c'était pour l'info. qui est l'interprète de Richie et qui lui prête ses traits, mais aussi sa voix, parce que oui, la musique est très importante dans cette série. Comme elle l'était d'ailleurs à cette période où le milieu club et le milieu gay se rencontrent un peu et se mélangeaient souvent, et où quand même, mesdames, messieurs qui adoraient les années 80 et qui les chantaient à tue-tête, dites-vous que sans les homosexuels et les lesbiennes, vous n'auriez pas eu grand-chose à chanter. Donc, remerciez-nous.
Bah, il leur resterait Sardou et tout ça, quoi.
Voilà. Oui, ça ne fait pas grand-chose. Bon, ensuite, dans la série vient Roscoe. Alors, Roscoe, c'est un barman hein, qui est issu d'une famille nigériane évangéliste. Donc, il est en rupture avec sa famille. Et c'est Omari Douglas qui est génial dans le rôle. Alors, Omari Douglas, vous l'avez déjà vu dans plusieurs seconds rôles si vous regardez beaucoup de cinéma anglais. Mais en tout cas, c'est un gars qui est assez connu. Et c'est lui qui devait au départ être dans la série dont j'ai perdu le nom, mais ça va venir...
Que t'as cité ?
Hein ? Non, non, l'autre série Sex Education, okay. Qui a été remplacé par Nsuti Gatwa parce que bon, il a pas pu la tourner. En tout cas, c'est un acteur que moi j'aime beaucoup et franchement, il est solaire dans le rôle qu'il a. Donc, ils vont croiser la route de Colin. Alors, Colin, c'est un jeune homme timide et introverti qui est interprété par le terriblement touchant Calhoun Scott Howell. Alors, Calhoun Scott Howell, vous le connaissez tous, vous l'avez tous vu parce que c'était un enfant star dans plein de séries des années 90-2000. Voilà, et quand vous allez voir sa bouille, je dis, ah oui, je vois qui c'est. Voilà. Et tout ce bon monde va finir par faire une colocation avec Ash, hein, qui est un jeune instituteur issu de la communauté indienne, qui est interprété par Nathaniel Curtis, qui est bluffant dans le rôle, mais vraiment, enfin, moi, c'est peut-être le personnage qui m'a le plus accroché avec celui de Richie. Et la fameuse fille à PD, alors oui, pardon, mais on disait comme ça à l'époque, hein, qui s'appelle Jill et qui est interprétée par Lydia West, que vous avez aussi vu dans plusieurs séries et qui est là aussi superbement impeccable dans son rôle, bah justement d'amie qui elle voit ses amis mourir et qui décide de faire quelque chose, de ne pas rester à rien faire, et c'est voilà, c'est juste assez assez fabuleux. Elle a un rôle, je trouve, vraiment très beau et qui est un peu le rôle des alliés et des aidants de l'époque, et ça permet de rendre aussi hommage aux gens qui autour de cette épidémie n'ont pas fait comme si elle n'existait pas et n'ont pas tourné le dos en disant bah ça ne nous regarde pas. Voilà. Donc, ouais, parce que juste quand même, je le précise, hein, tous ces messieurs sont gays. Voilà. Et pire que tout, il n'y en a pas un seul qui s'en excuse. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous invite à vraiment à regarder cette série. Vraiment. Parce que, oui, la série, elle nous rappelle hein, que ce qu'est l'épidémie du sida, comment elle est arrivée. Et surtout qu'elle est arrivée au moment où la montée de la lutte pour les droits des LGBT était un point haut. C'est-à-dire, c'est une période où, en fait, eh ben, ouais, c'était les premières Gay Pride, c'est le premier moment où les clubs ouvertement LGBT ouvrent, c'est aussi la période où les mouvements lesbiens apparaissent aussi, c'est une période où les mouvements trans apparaissent aussi. Donc, en fait, voilà, il y a une effervescence, en fait, à ce moment-là, et l'épidémie de sida vient percuter ça. Et c'est extrêmement bien montré dans la série, et je trouve que c'est plutôt, intelligent de rappeler que bah, finalement les conservateurs étaient très heureux de voir arriver cette épidémie quelque part, et voilà, et il rappelle dans la série que cette maladie a été laissée de côté justement un temps parce qu'elle ne touchait que ses invertis hein, ces homosexuels, que c'est bien les pouvoirs publics et les labos qui ont laissé mourir des milliers de personnes parce que ça les intéressait pas vraiment de trouver et d'aider hein, finalement là-dessus, voilà. Et que sans les associations, sans la lutte des concernés et de leurs proches, cela n'aurait sans doute pas changé aujourd'hui. Et que non, ce ne sont pas les malades les responsables, mais bien ceux qui ont fait en sorte de ne pas les voir. Et cette série, elle le rappelle avec brio. Vraiment, j'ai trouvé ça très très bien et très intelligemment fait. Mais la série, elle va au-delà de ça. Elle montre d'abord aussi la joie d'être soi, parce que c'est aussi une série très positive. Faut pas non plus, c'est pas parce qu'on rappelle ces années-là qu'il y avait pas de positif. Le fait de pouvoir être soi, de pouvoir se montrer comme homosexuel, d'envoyer chier la terre entière en disant, eh ben je suis comme ça et voilà. Eh ben c'est aussi extrêmement important et elle le montre très bien. Elle montre aussi le pourquoi la communauté LGBT plus est souvent un refuge et en quoi, en son sein, on a aussi des tensions qui existent. Et que c'est pas grave, mais que surtout, elle n'est jamais aussi forte, cette communauté, que quand elle fait front uni. Et ça, c'est voilà. Et je trouve que, alors c'est marrant parce que Russell T. Davis, quand il en parle, il dit, il retrouve aujourd'hui dans les débats qu'il y a au sein de la communauté LGBT+, les mêmes débats à peu de choses près qu'il y avait avec d'autres termes dans les années 80-90. Et il dit, il y a toujours eu des moments de tension. Mais il dit, par contre, ce qui est important, c'est de savoir s'unir quand il y a besoin de s'unir. Et l'épidémie de sida a été un moment justement d'unité et qu'il le rappelle et il dit bah c'est hyper important de voir ça aussi que bah c'est aussi et ça a été aussi un moment d'entraide et pas simplement un moment de peur. Voilà. Donc voilà. Donc la série elle est jamais larmoyante hein, je vous le dis, elle est très touchante mais elle n'est pas larmoyante. On n'est pas là à essayer de vous faire pleurer, c'est pas le but de la série. Elle est plutôt solaire d'ailleurs, du soleil des gens libres et en lutte et c'est ça qui fait du bien. Et si vous avez peur de ne pas la supporter, bah détrompez-vous. Vous en ressortirez sans doute changé. Mais pas dans le sens que vous pensiez. Donc moi, je vous le dis, il faut regarder cette série. Alors non, j'ai fait de la retape, je vais vous parler du site d'Action. Bah oui, parce que je sais que maintenant que je vous ai donné très envie de regarder It's a Sin, et que comme la série elle est disponible gratuitement sur France.tv, et qu'elle va l'être encore quelques temps, foncez, parce que c'est gratos, et que c'est bien quand c'est gratuit aussi, de pas avoir à payer une plateforme ou quelque chose comme ça. Donc, mais là je vais un peu vous parler du site d'Action. Chaque année, hein, je vois et je lis et j'entends les mêmes choses. Le sida, c'est derrière nous, faut arrêter avec ça. Ah, je l'ai vu, relu sur internet, là, je l'ai entendu.
Mais dans quel milieu quand même?
Y compris dans le milieu LGBT, faut pas se mentir.
Ah ouais, okay.
Où en fait, aujourd'hui, on en a marre. Il faut pas arrêter de parler du sida.
Oui, ça nous voilà, stigmatiserait, etc. Bon.
En fait, non, le sida, il est pas derrière nous. Alors, je vais juste rappeler quelques chiffres, hein, tout simplement. Le sida dans le monde, hein, c'est 39 millions de personnes qui vivent avec le VIH fin 2022. Voilà, c'est 1,3 million de personnes qui ont été infectées par le VIH en 2022. C'est 630 000 personnes qui sont décédées de maladies liées au sida en 2022. Oui, on a que les chiffres de 2022.
Oui, oui, oui.
Voilà, c'est 5,5 millions de personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient séropositives. Voilà, c'est assez énorme hein, quand même. C'est 29,8 millions de personnes séropositives qui ont accès à un traitement anti-VIH en 2022. C'est un petit peu plus qu'en 2021, mais on voit bien qu'on est très loin des 39 plus 5, hein, 44 millions. Voilà. Et c'est 53% des personnes qui vivent avec le VIH sont des femmes et des filles. Et les femmes et les filles représentent 46% pardon, de toutes les nouvelles infections au VIH en 2022. Bah, c'est ça la réalité du sida encore dans le monde. Alors, si dans les pays riches, et en particulier grâce à la militance d'associations comme ACT UP, AIDS ou le SIDAction justement, et d'autres, hein, nous avons accès à plus de moyens de protection et de prévention, que ce soit les préservatifs, la PrEP, le dépistage, tout ce qui permet effectivement ça, et que des traitements pour bloquer la maladie existent, c'est un fait, même s'ils restent contraignants, hein, c'est ce que rappellent toutes les personnes qui sont sous traitement, il y a quand même des contraintes, et que certains ont des effets secondaires pas forcément terribles qu'on n'aimerait pas avoir tous les jours quand même, il s'agirait de ne pas oublier qu'ici, en France, on a encore entre 5 et 10 000 personnes qui sont séropositives sans le savoir. Donc, je vous le redis, et je vais être très chiant, dépistez-vous. C'est gratos, vous allez dans n'importe quel laboratoire de biologie, enfin laboratoire biologique, vous rentrez, vous dites bonjour, je veux faire un test VIH, c'est gratuit, c'est anonyme, et vous avez la réponse sous moins de 24 heures. Donc ça vaut le coup, allez-y, faites-le. Si vous n'avez pas envie d'aller dans un labo, vous pouvez rencontrer des associations aussi qui le proposent. Si des associations, ça ne vous va pas, vous pouvez demander à votre médecin. En fait, voilà, mais faites-vous dépister, parce que c'est hyper important de faire une sérologie régulièrement. Voilà. Surtout si vous avez une vie sexuelle active, évidemment. Je rappelle quand même que cette maladie, ailleurs, elle tue souvent par manque de moyens et de prévention et d'aide. Parce qu'il ne faut pas rêver, il y a des endroits dans le monde où aujourd'hui avoir un préservatif, c'est compliqué. Il y a des endroits dans le monde où avoir des tests rapides pour savoir si on est atteint du VIH, c'est compliqué. Et donc tout ça, en fait, eh ben, ça fait partie de la lutte. Et ce n'est pas uniquement une lutte franco-française et à l'échelle de la communauté lyonnaise LGBT ou parisienne LGBT. C'est bien une lutte qu'on mène et qu'il faut mener à l'échelle international. Voilà.
Ouais.
Bon, mais pire que tout, hein, il faut quand même se rendre compte que les grands labos se désintéressent de la recherche sur le virus pour trouver par exemple un vaccin, hein, parce que pourquoi on ne pourrait pas trouver un vaccin? Car le marché est globalement jugé peu rentable, tout simplement. Hein, oui, c'est cela le cynisme. Hein,
c'est ça s'appelle le capitalisme. Hein, c'est...
Alors oui, heureusement, hein, je le dis, qu'il y a des associations qui financent la recherche, sans quoi en fait on n'avancerait pas. Et si cela est possible, c'est parce qu'une poignée de militantes et de militants ne baissent pas les bras et refusent de laisser la maladie dit gagner. Et ça, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas facile. Parce que même aujourd'hui, on veut plus en entendre parler. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont à dire. Je fais juste une petite parenthèse. Je vous invite à aller voir un reportage qui a été fait dans le cadre du SIDAction auprès de jeunes dans des lycées et d'écouter ce qu'ils pensent de comment on peut attraper le sida. Donc, par exemple, ils disent, bah oui, il suffit de serrer la main à quelqu'un qui est séropositif, ouais. Embrasser quelqu'un qui est séropositif. Je rappelle que tout ça, c'est faux. Hein. Ouais. Mais donc, on voit bien que bah, il y a une régression aussi de la connaissance autour de la maladie. Et c'est ça qui est, ou du virus en tout cas, parce qu'on n'est pas tout malade parce qu'on porte le virus. Mais en tout cas, voilà, c'est important ouais, de redire les choses. Et
bah oui, parce qu'en fait, c'est finalement, tu dis, en 30, 40 ans, t'as l'impression qu'on est revenu au point de départ.
Ah ben, bah c'est les mêmes taux à peu près
oui,
que
c'est ça, parce
dans
que vraiment,
90.
C'est ce qu'on pouvait entendre du début. Enfin, on était pas dans l'ignorance, mais dans la bêtise, on va dire, de pas savoir.
On est dans l'ignorance.
Et là, Et là, tu dis 30 ans après, en fait...
Bah, on est nouveau dans l'ignorance parce qu'on n'en parle plus.
Ouais, mais c'est ça, en fait.
C'est tout le problème, c'est qu'on en parle.
C'est tout le truc,
plus.
En fait.
Alors, est-ce que le sida est derrière nous? Ben non, finalement, pas tant que ça. Il suffit de regarder les chiffres que j'ai donnés. Il est en fait le grand absent de notre militance commune aujourd'hui. Je dis commune, pas uniquement de la communauté LGBT, hein, c'est commune dans la société, tout simplement. Souvent relégué au second plan parce que, bon, on en a entendu parler hein, de sida, ça va, quoi. Et pourtant, il est toujours là, il nous gâche la vie et il retire encore la vie à trop de monde dans le monde. Oui. Donc voilà. Je le dis, il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas aussi être aussi bête que la société passée, dont parle justement Russell T. Davies dans sa série. Hein. Faisons de la lutte contre cette maladie une priorité et foutons la pression sur les labos et les pouvoirs publics pour que ça avance plus vite. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a que ça qui va marcher.
Ah bah de toute façon hein, tant qu'il n'y a pas de pression ils n'en ont pas grand chose à foutre.
C'est ça.
Et si je me souviens bien même, enfin il y a une période où c'était pour faire de la trithérapie on va dire en
une seule gélule.
Oui ouais. Et puis non aussi dans les pays comme l'Inde ou autre en générique.
Ouais en générique oui.
Et qu'en fait les labos étaient montés en disant ils ne pouvaient pas. Non mais je veux dire c'est aussi enfin parce que peut-être que les plus jeunes auditeurs peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Bah ça va. Mais c'est que vraiment enfin les labos ils sont juste là pour enfin c'est terrible quoi.
Bah c'est une question de brevet et le problème c'est ça c'est que par exemple alors je vais tu vas là-dessus donc je vais y aller aussi mais par exemple l'Union européenne a le droit de préempter un brevet si elle estime que le médicament est utile au plus grand nombre et qui doit être accessible. Elle a le droit, c'est dans les textes européens, je prends l'Europe parce que on est en Europe hein. Elle ne le fait pas. Elle pourrait tout à fait dire, eh ben écoutez, tous les traitements contre le VIH, les brevets tombent, ils sont dans le domaine public et ceux qui veulent les faire les font de façon à le donner accès aux plus grandes et notamment aux pays les plus pauvres.
Eh oui.
Parce que le problématique qu'il y a aujourd'hui, c'est le coût aussi. Mmh. Parce que comme la plupart des médicaments sont sous brevet, ils sont vendus par les labos à des prix extrêmement élevés souvent, ce qui fait que les associations qui viennent en aide dans les pays les plus pauvres sont obligées de les payer extrêmement cher pour pouvoir donner les traitements dans les vous voyez, c'est le cercle vicieux en fait. Donc en réalité, il y a des moyens. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut foutre la pression sur les politiques, il faut foutre la pression sur tout ce qui, tout, sur les labos surtout, parce que sinon rien ne sera fait. Et moi, ce qui commence à me crisper, c'est que parce que dans les pays riches, le SIDA ne tue plus, ou du moins ne tue plus, ou quasiment plus, eh ben on fait comme s'il n'existait plus. Et ça, c'est une vraie position terrible. Et je remercie, je le dis cette année, le SIDAction, qui justement a fait une part internationale très importante dans sa communication et j'ai trouvé ça plutôt positif de rappeler que c'est une lutte internationale et pas une lutte juste à l'échelle de la France. Voilà.
Ouais, c'est ça, faut sortir notre nombril franco-français quoi.
Et je le redis, regardez la série It's a Sin, elle est gratos sur France.tv, faites-vous plaisir, ça fait du bien.
Eh ben très
non,
bien.
Non vraiment, elle
ouais,
fait
non,
du
mais
bien.
OK. Voilà. On passe à la ZIC.
Oui, justement. Ouais.
Blame.
De retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter, eh ben, It's a Sin, mais en reprise cover, parce que normalement c'est les Pet Shop Boys qui le chantent. Et là c'est Lord of the Lost. Et Lord of the Lost, si vous les connaissez peut-être, c'est un groupe de glam metal, voilà, dont la plupart des membres ne sont pas hétérosexuels et ne s'en cachent pas. Et qui font beaucoup de. Ils font leurs propres titres et ils font aussi des reprises. Et à chaque fois, ils essayent de remettre de prendre des hymnes de la communauté LGBT et de les métalliser.
Ok.
Voilà, et donc j'avais trouvé leur. Leur reprise de It's a Sin plutôt pas mal, donc voilà, j'avais envie de la passer ce soir. Et on va passer au bref.
Ouais, et je crois que c'est toi qui commence.
Oui, c'est moi qui commence.
Alors, déjà, si on peut juste prévenir que. Alors, on va pas vous détailler tout parce que c'est vraiment. Il y a une semaine totale d'action et de différentes choses autour de l'évacuation, de l'expulsion plutôt, en fait, de l'ECG, c'est l'espace communal de la Guillotière. C'est un lieu qui est squatté depuis
plusieurs années. Et là, il risque l'expulsion. Et donc, il y a toute une semaine avec vraiment différentes choses. Il y a des AG de différentes assos, orgas, etc. Enfin, voilà.
Ouais.
Donc,
Et il y aura des émissions aussi sur Radio Canu, oui, en direct de l'ECG. Il y a des Canu Info. Il va y avoir des émissions le soir, je crois aussi.
Okay.
Voilà. Donc, sur les ondes, vous en réentendrez parler sur Radio Canu.
C'est ça. Et en dehors de ça, donc.
Eh ben, si vous avez envie de jouer un petit peu avec de la sexo, ouais, et vous dites, oh tiens, je ne sais pas quoi faire le 1er avril de 19h à 22h, eh bien je vais au Flâneur et je vais voir l'association Hélice qui vous invite donc pour un temps convivial. Au programme, il y aura des jeux, des times up, des stands d'informations et une bibliothèque autour de la vie amoureuse et sexuelle, et ça c'est plutôt cool. Et donc c'est à partir de 19h, donc il y aura donc des jeux sexo et féministes, hein, voilà. Ils ont créé un times up pour okay. info, c'est pour ça que voilà. Et donc bah, vous pourrez aussi prendre un verre tranquille et tout, discuter, et l'idée c'est d'échanger autour de toutes ces thématiques. Et donc ça se passe, c'est sans rendez-vous, enfin sans vous inscrire plutôt, sans rendez-vous, c'est sans rendez-vous, c'est comme chez le médecin, allez tranquille, pardon, donc c'est sans vous inscrire. Et donc c'est de 19h à 22h au Flâneur, et le Flâneur c'est 56 rue Sébastien Griff dans le 7e. Ça s'appelle même d'ailleurs le Flâneur Guest House.
Ah oui, ok.
Voilà.
Ok. Et l'autre rendez-vous, en tout cas qui commence mardi et qui se terminera la semaine d'après, c'est donc du 2 au 10 avril. C'est le Festival Palestine en Vue. C'est un festival de cinéma palestinien qui a lieu dans le Rhône-Alpes, sur Lyon. Je crois que c'est pas mal au Comédia. Et voilà. Enfin, là aussi, hein, on va pas vous donner toutes les choses, toutes les dates, etc. En tout cas, l'ouverture du festival, elle aura bien lieu le mardi 2 avril à 20h au Comédia, avec la projection en avant-première du film Une maison à Jérusalem de Mouayad Alayan. Et nous bénéficierons, enfin, il y aura une connexion vidéo avec le réalisateur depuis la Palestine. Et il serait prudent de réservé ce coup-ci par contre.
Ah oui.
Voilà, et donc voilà, il y a plein de choses. De toute façon, si vous tapez Festival Palestine en Vue, je pense que vous tomberez sur le programme et toutes les choses qui sont autour.
Et évidemment, un cessez-le-feu et vite.
Ouais.
Parce que ça devient plus qu'urgent.
Oui.
Voilà.
Et ben voilà, nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va peut-être faire quelques rappels quand même avant de se quitter et de passer le dernier titre.
Oui, alors on va vous rappeler que pour nous écrire, c'est lacauseriecanu@gmail.com.
Tout à fait.
Et si vous nous écoutez sur le blog, c'est où?
Bah, c'est sur, vous tapez soit dans votre petit moteur de recherche, blog Radio Canu La Causerie. Normalement, vous tomberez sur nous. Sinon, c'est à blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie.
Mais si tu préfères les podcasts, eh ben, on est sur la plupart des agrégateurs de podcasts. Tu tapes La Causerie Canu et tu dois nous trouver. Et j'ai personnellement vérifié. Nous sommes donc bien sur Deezer, Spotify et sur, je sais plus, podcast, machin, Apple Podcast, je peux vous appeler. Mais on est sur les trois. Voilà, donc les principaux, on y est.
Donc vous n'avez pas d'excuses, quoi.
Non, soit tu dois nous réécouter.
Soit vous nous écoutez, soit voilà, quoi.
soit au bout de.
Soit on continuera de faire ce qu'on fait, dans tous les cas. Et ben voilà, nous on vous donne rendez-vous donc dimanche ouais. prochain à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu. Et on se quitte en musique. Et c'est toi, Fab, qui a choisi le dernier.
Oui, alors j'avais déjà passé Rome de Solane. Et j'aime beaucoup Solane. Et alors avant qu'elle devienne ultra connue, et qu'on puisse plus la passer parce qu'elle sera trop connue.
Oui, dit... parce qu'à Canu, il y a un règlement non dit, mais tout ce qui marche, on n'a pas le droit de le passer.
Voilà,
quoi.
C'est, voilà.
Parce que c'est mainstream, vous savez, dans nos milieux, on n'aime pas les trucs mainstream.
C'est pas vrai, ça m'empêcherait pas de le passer. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de passer Solane ce soir, et surtout que, petite anecdote, je l'ai vue sur scène il n'y a pas très longtemps, et juste aller la voir, elle est exceptionnelle sur scène. Et donc ça s'appelle Monstrueuse, et vous allez voir, c'est un titre qui est construit assez étrangement. On dit, c'est un mélange entre le mystère des voix bulgares et un grand son de rock à la fin.
Okay.
Voilà, c'est très, très 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 bon. Voilà.
Donc on se quitte en musique et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et okay. à bientôt. Des bisous.
À bientôt, des bisous.
Ciao.
Jamais j'oserais vous apporter la peste, rien que pour mon plaisir, pour la beauté du geste. Jamais j'oserais empoisonner le vin. Jamais j'oserais verser le sang des hommes en guise de représailles. Jamais j'oserais devenir un cauchemar, une abomination et faire fuir.
C'est pas comme si j'avais une fourmilière dans la bouche qui demande qu'à sortir.